Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Djoliba TV News et dans votre émission Le Train littéraire, votre émission mensuelle que nous vous présentons ici tous les derniers jeudis du mois à l'espace Le Restaurant La Pirogue. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Merci à vous, charmant public, d'être sorti pour la cause de la littérature, de la lecture, mais aussi d'un échange fructueux. Nous sommes sûrs que nous allons avoir autour, en tout cas, de ce plateau pour ce train littéraire qui reçoit pour vous ce soir M. Oumar Malik Ongoïba. M. Ongoïba, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci.
Comment allez-vous?
Très bien.
Le moral est bon?
Au top.
Très bien. Alors, nous sommes à bord du train. Vous êtes M. Ongoïba de Douanzan, pour être plus précis. Vous n'aviez pas l'habitude d'emprunter des trains. Vous, c'est surtout les charrettes que vous connaissez le plus souvent ou bien les cars. Vous êtes à bord du train littéraire. Qu'est-ce que cela fait à un Dogon de se retrouver au bord d'un train auquel il n'est pas trop habitué?
Alors, merci bien. Je salue ce charmant public qui est là. Je suis vraiment très honoré d'être avec vous au bord de ce train littéraire. Moi, je ressens une profonde connexion entre l'esprit de voyage et la créativité littéraire. Pour moi, à chaque arrêt de ce train, c'est vraiment la découverte d'un nouvel horizon. Et à chaque sifflement de ce train, c'est également une alerte que nous lançons à l'endroit de nos téléspectateurs, à l'endroit de ce charme public. Et donc, c'est pour vous dire que je suis vraiment très, très heureux de faire partie de ce voyage collectif, une aventure qui est là, une aventure collective.
Merci, M. Oumar Malik Ongoïba, pour ces mots à l'endroit du public, mais aussi pour, en tout cas, témoigner toute votre sympathie pour ce train littéraire. Merci, mesdames et messieurs, d'applaudir pour notre invité du mois. Alors, M. Ongoïba, c'est une tradition dans cette émission. On va donc nous sacrifier à la tradition. C'est un moment de partager avec ce public présent, mais aussi tout ce monde qui nous regarde sur Djoliba TV News et qui nous écoute également sur les différentes stations FM, de partager, si vous nous permettez, avec le public votre parcours, M. Ongoïba.
Vous pouvez le faire.
D'accord. Mesdames et messieurs, Oumar Malik Ongoïba est né le 31 décembre 1993 à Mondoro, dans la région de Douanzan, ayant passé une partie de son enfance à Ouagadougou. Il revient au Mali en 2006 pour poursuivre ses études et obtient le baccalauréat en 2012. Titulaire d'une maîtrise obtenue à la faculté des lettres, des sciences et des langues et des sciences du langage, j'y arrive, Flessel, et étudiant travaillant sur son mémoire à l'école normale supérieure NSUP de Bamako, la passion de M. Ongoïba pour les lettres remonte depuis les années du lycée. Directeur d'une école privée de Bamako de 2016 à 2018, c'est à la même date qu'il commence à exercer comme journaliste et reporter pour Delta News. Il a rapidement gravi les échelons pour devenir rédacteur en chef adjoint au journal Le Messager. De mars 2021 à juillet 2023, il a été analyste des questions sécuritaires au journal Le Soir de Bamako. Depuis août 2023, Oumar Ongoïba est rédacteur en chef à Delta News. En décembre 2023, il a été récompensé pour son talent littéraire en tant que lauréat du concours d'écriture jeune écrivain malien avec son ouvrage intitulé « Les morsures du Ogon » qui fait l'objet de notre entretien de ce soir, mais aussi qui est son premier ouvrage, faut-il le rappeler, lequel concours avait été organisé par l'ambassade de France au Mali. Monsieur Ongoïba, voici de façon succincte exposer votre biographie. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette mini-biographie ou y a-t-il des points sur lesquels vous souhaiterez revenir?
Oui, je me reconnais parfaitement dans cette biographie que vous venez de faire. Je voudrais juste ajouter que je suis enseignant de formation, journaliste par vocation, auteur, ou si vous voulez, écrivain par devoir. Plus qu'un devoir, mieux. Pour moi, l'écriture, c'est un métier. Parce qu'aujourd'hui, je vis de ça. Voilà, je voulais souligner ce passage-là.
Ok, merci Omo pour la précision. Alors, je rappelle que vous êtes auteur de ce bel ouvrage, M. Oumar Malik Ongoïba, intitulé « Les morsures du Ogon », lequel ouvrage était un roman, hein, un roman divisé en deux chapitres, voilà, en deux parties, j'allais dire, hein, dont la première partie est composée de 7 chapitres et la deuxième 3 chapitres. Et c'est un ouvrage qui a été édité aux éditions Gaffé. Parlez-nous un tout petit peu de la collaboration avec les éditions Gaffé. Comment est-elle arrivée?
Alors, avec l'édition Gaffé, c'est un partenariat avec l'ambassade de la France au Mali. En 2023, ils ont lancé un concours, et comme vous l'avez dit, concours jeunes écrivains maliens. Nous étions au nombre de 35 personnes à postuler pour ce concours. Et parmi les 35, ils ont retenu 5 personnes. Et je faisais partie de ces 5 personnes. Et comme vous le savez, l'ambassade de France au Mali a pas mal de partenariats avec les maisons d'édition, surtout les nouvelles maisons d'édition. C'est également pour encourager la productivité littéraire. C'est également pour encourager cette industrie littéraire. Et c'est dans ce cadre que les GAFE collaborent avec l'ambassade de France. Et comme nous avons été lauréats et nous avons été affectés au niveau de la maison d'édition, les GAFE, et c'est là que nos livres ont été imprimés.
Très bien. Vous étiez au départ, vous l'avez dit, 35, dont 5 au finish et à l'arrivée, c'est un seul hein, qui en tout cas a tiré son épingle du jeu. Et c'est vous, ce fameux lauréat. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir encore une fois de plus pour notre écrivain. Alors, je disais, hein, un roman de 104 pages, très intéressant, Les morsures du Ogon. Nous sommes à bord d'un train, nous sommes quasiment des Kaïsiens habitués à prendre ce train de Bamako à Kaï, même en passant souvent par le Sénégal. Et nous ne sommes pas trop imprégnés hein, dans la culture d'Ogon. Et là, vous parlez des morsures du Ogon. Nous entendons le plus souvent le Ogon. Qu'est-ce que c'est que le Ogon?
Alors, le Ogon, en milieu d'Ogon, c'est un chef spirituel. Par n'importe lequel, un chef spirituel qui a des pouvoirs surnaturels, et qui a cette capacité d'entrer en contact avec les ancêtres, comme on le dit, les esprits. Et dans le roman, vous verrez que le Ogon intervient à travers Atem, qui n'est pas lui-même Ogon, mais qui apparaît comme le médiateur du Ogon. Donc, pour répondre à votre question, le Ogon, c'est un chef spirituel. Et de surcroît, ce sont des vieux qui deviennent des Ogons. C'est le plus âgé de la contrée, le plus âgé de la communauté qui devient Ogon. Et là, il est doté de pouvoir.
Et, vous...
et pour préciser, je pense que le Ogon, ce n'est pas seulement sur les Dogons, ça existe dans d'autres ethnies. Chez les Soraï, je pense que Al-Farouk a à peu près le même titre que le Ogon chez les Dogons. Chez les Mossi, nous avons le Morenaba. Ça existe chez les Bozo, mais je ne connais pas le nom. Je pense qu'en Afrique, ça existe à peu près dans toutes les communautés, mais les noms diffèrent. Mais la fonction, qui est ce rôle de défendre la tradition, le fait d'être le défenseur, le gardien de la tradition, c'est ça le Ogon.
Ok, je pense que l'auditoire ici présent hein, a quand même tiré quelque chose de cette explication que vous venez de donner par rapport au mot Ogon. Alors, Monsieur Ongoiba, nous allons essayer de rendre un peu la tâche facile à ceux qui sont ici, mais aussi à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, même si nous n'allons pas essayer d'alléger trop la tâche pour eux, parce que l'objectif de cette émission, c'est faire en sorte que les gens puissent aussi s'intéresser au livre. Nous n'allons pas trop rentrer dans la profondeur par rapport au livre, mais si on devrait vous demander, M. Ongoiba, de nous dire un tout petit peu, hein, de nous faire sinon un résumé, un bref résumé de ce bouquin intitulé « Les morsures du Ogon ».
Merci. Les morsures du Ogon, comme vous l'avez dit, c'est un roman divisé en deux grandes parties. La première partie compte 8 chapitres, la deuxième partie compte 3 chapitres.
La première partie compte 7 chapitres.
7 chapitres, excusez-moi. Oui. Merci pour la précision. La deuxième partie compte 3 chapitres. Oui. Alors, c'est une histoire qui raconte l'histoire d'un jeune garçon, Amatigué, un jeune diplômé, sans emploi, issu d'une famille très pauvre, installé à Bamako. Alors, lorsque son père, du nom de Atem, a décidé de lui choisir une femme en mariage, du nom de Oumou, une femme villageoise qui partage la même classe sociale qu'Amatigué. Ils sont de la lignée de la noblesse. Mais également, cette femme est également issue d'une famille très pauvre. Amatigué va refuser l'offre de son père. Il va dire non, je ne vais pas me marier avec cette dame que vous me proposiez. si je dois me marier, je préfère me marier à Aïchata. Aïchata, c'est une étudiante très élégante, une fille très belle et qui est issue d'une famille très riche, bien qu'elle vienne de la lignée des griots. Alors, le père va dire non, notre société est régie selon des lois, des coutumes, des us que tu dois respecter. Tu n'es pas de la même classe sociale que Aïchata. Par conséquent, tu ne peux pas te marier et tu ne peux pas prendre cette dernière comme ta femme. Donc, tu dois accepter l'offre que je te fais. L'enfant va dire non, non, je préfère me marier avec Aïchata. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Le père va tenter de sensibiliser l'enfant. Il va faire appel à la maman de l'enfant, du nom de Yabi. À un moment, il a même demandé à son épouse, est-ce que cet enfant qui me contredit aujourd'hui est réellement mon enfant? L'épouse, son épouse va le dire, évidemment, c'est ton enfant. Il va tout faire, il va même utiliser, il va aller au village, il va faire des sacrifices pour que cet enfant revienne à la raison, selon lui. Mais Amatigue va refuser. Amatigue va refuser. C'est là que le père Atem va faire recours au pouvoir de ses ancêtres pour punir ce qu'il qualifie de l'insolence de son enfant, Amatigue. D'abord, il va devenir fou et par la suite, il va mourir. Mais avant de mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait pris le soin d'enceinter sa petite amie qui est Aïchata. Évidemment, il avait mené des démarches pour pouvoir la marier, mais le père de la jeune dame, Ousmane, va refuser. Et c'est lorsque Ousmane était malade, il avait été évacué aux États-Unis pour des soins. C'est là qu'ils vont profiter pour être ensemble. Amatigue va prendre le contrôle des affaires de Ousmane avec la complicité de Aïchata. Ils vont vivre ensemble et c'est là qu'il va l'enceinter. Mais c'est après sa mort que Ousmane, qui va revenir des États-Unis, s'en rendra compte que sa fille a été enceinte. Est-ce que vous voyez? Et là, indien, il va également chasser Aïchata. Et du coup, abandonnée à elle-même, puisqu'elle a fait anglais bilingue à l'université, elle va chercher un établissement où elle va commencer à enseigner. C'est là qu'elle parvenait à subvenir un peu de ses propres besoins. Et l'histoire nous révèle ensuite, puisqu'elle était enceinte de Amatigue, le défunt Amatigue, l'histoire nous révèle que Aïchata va perdre la vie lors de l'accouchement parce qu'elle va subir de l'hémorragie. Et elle va laisser derrière elle un petit garçon, un nouveau-né, qui sera rebaptisé au nom de son père, Amatigue. Mais on l'appelait affectueusement Atigue. Et qui devrait s'occuper de cet enfant-là? Il n'y avait personne parce qu'elle avait été chassée de sa famille, son mari n'est pas là. Mais elle avait eu la présence d'esprit de lier une amitié avec la fille villageoise que Amatigue avait rejetée, Oumou. Oumou, qui est la fille pauvre que le père avait proposée à son fils. Ce dernier avait refusé, mais malgré tout, le père était parti au village pour amener. Il voulait imposer cette dame, cette jeune fille à son fils. Le garçon va refuser. Et c'est cette jeune fille-là maintenant qui va prendre soin de Amatigue. Elle va récupérer Amatigue. Amatigue fils, parce qu'il y a Amatigue père et Amatigue fils. Et pour faire la différence, Atigue, c'est lui l'orphelin de père et de mère. Elle va récupérer Atigue pour la garder à l'orphelinat, parce qu'elle ne savait pas où l'amener. Elle savait que le grand-père, ou du moins son beau-père, Atem, n'allait pas accepter ce garçon. Elle savait également que Aïchata avait été chassée de la famille. Donc du coup, cet enfant n'avait pas de famille. Son seul espoir, c'était elle, Oumou. Elle a décidé de confier cet enfant dans un orphelinat. Par la suite, l'histoire va évoluer. Vous verrez que l'orphelinat arrive à un certain moment. Ils vont dire à Oumou, bon, nous ne pouvons plus le garder. Il faut venir chercher ton enfant. Elle va se débrouiller pour aller confier l'enfant là où elle travaillait, parce qu'elle avait été embauchée comme bonne, comme aide-ménagère dans une autre famille, la famille Traoré. Elle va aller demander que l'enfant soit hébergé là-bas. Pour un début, la femme, sa maîtresse, va refuser. Mais à force de plaider auprès de M. Traoré, ce dernier va accepter. Et l'enfant va vivre avec Atigue. Alors, Atigue, dans la rue, il va apprendre que Oumou, disons, là où il est, M. Traoré, parce qu'il avait toujours cru que M. Traoré est son grand-père, ils vont dire, non, toi, tu es un enfant de la rue, tu connais même pas tes origines. Il sera blâmé et là, Amatigé va dire, bon, je vais aller chercher mes propres origines. C'est là qu'il va commencer à embêter sa maman, celle qui l'élève, évidemment, Oumu. Il va l'embêter jusqu'à ce que cette dernière va accepter de l'amener dans sa famille, chez Atem. Pour un début, il va le rejeter, il va dire non, je ne peux pas, je n'ai rien contre lui, je ne lui reproche rien, mais il ne peut pas vivre avec moi. Mais ils vont faire intervenir des bozos, des forgerons, pour vraiment demander à ce que Atem accepte cet enfant. Il dit, je n'ai rien contre lui, il peut vivre, c'est sa famille, il peut venir, mais vraiment le prendre en tant que petit-fils, en tant que tel, Atem va refuser. Donc c'est comme si la trade, pour lui, comme on le dit, la noblesse pure et dure est l'orgueil du Dogon, du Hogon. Pour lui, comment lui qui a combattu son propre fils Amatigé, c'était pour évidemment éviter que son fils ait un sang mêlé. Parce que ça porte, dans sa tradition, selon lui, ça porte atteinte non seulement à l'honneur de ses ancêtres, mais aussi à l'honneur de sa progéniture. Bon, l'enfant va rester quand même avec le grand-père. Il va étudier. Et lorsque lui aussi, il va décider de se marier avec une autre femme du nom de Zénabou, mais cette fois-ci issue de la lignée des nobles, les parents vont dire non, on ne peut pas t'accorder la main de notre fille parce que tu n'es pas de sang pur. Tu es un sang mêlé, donc on ne peut pas te donner. Mais c'est là que l'enfant va commencer à comprendre. C'est là qu'il va se dire, comment se fait-il que on m'a dit que mon père est noble et ma mère, parce qu'il avait toujours cru que c'est Oumu qui est sa propre mère. Il avait toujours pensé que c'est Oumu qui est sa propre mère. Et il dit que mon père est noble, ma mère est noble et vous me qualifiez de sang mêlé. Donc ça veut dire que soit ma mère n'est pas noble, soit mon père n'est pas noble. Il va aller interpeller son grand-père. C'est là que le grand-père va lui raconter l'histoire. Avant sa naissance, ce qui s'est passé. Il va lui dire non, j'avais mis en garde ton père. Évidemment, c'était pour ne pas gérer ses conséquences que j'avais mis en garde ton père. De faire attention, mais il ne m'a pas écouté. Il est parti, il a décidé de se marier à une fille griotte. Et voilà, tu es issu de cette union. C'est là qu'il va comprendre qu'évidemment, Oumu n'était pas sa mère. Et du coup, il va décider de combattre cette société qu'il a rejetée. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre que lui, il soit un produit inacceptable de cette société qui, pourtant, ne vaut pas mieux que lui. Donc, il va se lancer, il va décider de combattre cette société. Et le roman termine
à ce niveau. Ok, merci encore d'applaudir pour en tout cas ce récit très intéressant, très émouvant. Évidemment qu'il faut justement aller à la rencontre de cet ouvrage pour en découvrir davantage tout ce qui est dit dans ce bel ouvrage. Alors, vous l'avez dit, c'est justement l'histoire de Amatigé père, qui, en tout cas, les rôles ont été inversés ici parce que, évidemment, chacun d'entre nous ici a en mémoire, en tout cas, le livre de Sédou Badian qui pratiquement traite le même sujet, mais sauf que ici, c'est quand même inversé parce que Sédou Badian, lui, c'est Kani qui dont il est question, qui est une fille, mais ici, c'est Amatigé dont il est question, évidemment, qui est un garçon. Alors, nous assistons, M. Ngoïba, justement, à un conflit de génération, même dans ce livre-là, comme Sédou Badian aussi l'a si bien évoqué. Mais là, il n'y a pas de d'échange direct, en tout cas, comme on l'a si... C'est un échange direct, on va dire ainsi, Amatigé et justement son père Atem, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Comme on a vu avec Sédou Badian, c'est surtout Maman Téné qui est au four au moulin entre le père Benfa et Kani. Alors justement, il y a des noms qui apparaissent ici qui ne sont pas du tout familiers. Vous parlez de Amba. Nous savons très bien que chaque nom, pratiquement, Dogon est symbolique. Même tous les noms, pratiquement, que ce soit Dogon, Sorai, Sarakolé, Bamana, tous les noms, en tout cas, ont un sens, une signification, comme l'a si bien dit Jurul Tamsirnyan. Alors, parlez-nous un tout petit peu de vos personnages, Amatigé, Atem, Yobi, pour ne citer que ceci.
Merci bien. Je commence d'abord par le père, Atem. Atem, littéralement, ce nom signifie la tradition. Et c'est un nom très, 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 très répandu en milieu Dogon, qui veut dire la tradition. C'est pour d'ores et déjà montrer, à travers son nom, qui est cet homme. C'est un vieux très virulent, très intransigeant, qui a des pouvoirs occultes et qui avait comme souci quelle progéniture il va laisser. Parce que ça, c'est ancré sur un milieu d'Ogon, les vieux Ogon, ou du moins ça, les chefs de famille, leur premier souci, c'est de se dire, quand je vais partir, ma progéniture là, comment ils vont être? Et c'est ce que Atem voulait gérer. C'est ce qu'il voulait gérer. Et vous allez voir, bien qu'il a accepté de mettre son enfant à l'école française, il va se donner le devoir de l'éduquer en famille, de lui sensibiliser sur les valeurs traditionnelles. Et Amatigé, qui veut dire notre seul espoir ou l'unique héritier, Atem n'avait autre fils que ce garçon-là. Il avait seulement Amatigé. Et son seul souci, c'est de faire en sorte qu'il puisse se marier à une autre femme qui partage la même classe sociale que son garçon. Mais sauf que le garçon va rejeter. Et j'avoue personnellement que Amatigé, c'est un personnage très complexe qui a même échappé à la plume de l'auteur et s'est imposé à lui. Et c'est peut-être que l'auteur a dû remettre Atigé dans le livre parce que l'auteur a eu du mal à maîtriser Amatigé, qui décidait de son propre chef, qui défiait non seulement la tradition, qui défiait également sa famille. Et en même temps, qui s'est imposé à l'auteur pour forger son destin, pour forger son avenir. Donc Amatigé, pour répondre à votre question, ça veut dire l'unique héritier. Et Yabi, qui signifie la patience. Vous avez vu, quand le père va faire recours à Yabi pour dire « Dis à ton fils d'accepter la proposition », Yabi a tenté de sensibiliser Amatigé. Mais elle n'a pas eu gain de cause. Et jusqu'à ce que le père ait maudit son fils, Yabi est resté là. Elle ne pouvait qu'intervenir pour dire « Non, s'il te plaît, c'est un enfant ». Vous voyez, donc c'est également l'image de la femme, si vous voulez, d'Ogon, en particulier de la femme africaine en général, celles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, de rester dans cette passivité, de laisser l'époux tout faire, de laisser l'époux faire tout, commander tout, sans intervenir. Parce qu'ils se disent que oui, la vie de la famille, c'est d'abord l'époux. En tant que femme, elles sont toujours à l'infinitif.
Ok. Alors, justement, c'est les noms. Hein, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Les noms, c'est des prénoms qui ne sont pas accompagnés de noms de famille, si je comprends bien. Et pratiquement tout au long du livre, tous les noms que vous avez énumérés, ça et là, ce sont des prénoms que vous avez cités, mais pas de noms de famille, excepté celui de Aissata Kouyaté. Pourquoi avoir mis un accent sur Aissata Kouyaté? Pourquoi avoir cité le nom en entier?
Oui, Aissata Kouyaté, c'est pour marquer son identité. En Afrique, quand on dit Kouyaté tout de suite, on sait que ce sont les dépositeurs de la parole. Nous savons que ce sont des griots. Donc, c'est évidemment pour marquer son identité et faire ressortir cette opposition entre elle et Amatigé, bien que son autre famille n'ait pas prononcé, sa lignée a été définie dans le roman. Contrairement à, évidemment, Aissata également, sa lignée a été définie, mais rien qu'avec son nom, on sait déjà qui elle est.
Alors, Oumar, toujours, hein, parlant toujours de la progression du récit, hein, évidemment que Atem va faire appel, comme il a si bien dit, au man de ses ancêtres pour, en tout cas, faire fléchir, certainement, parce que moi je mets ça dans ce cercle-là, c'était pour faire fléchir son fils Amatigé qui pratiquement était quasiment, il était perdu, parce que lui il avait voulu le faire raisonner et maintenant il fallait justement appeler les esprits pour que Amatigé puisse revenir à la raison. Et il est dit à la page 39 pour ceux qui ont le livre, hein. Alors, et surtout que dès lors qu'il va lever son index, Yabi va tout de suite la comprendre de quoi il est question. Donc ça veut dire que c'est des langages, c'est un code qui est là et tout le monde, pratiquement les gens qui sont initiés ici connaissent toujours là. Alors il dit ici, au man de mes ancêtres, à vous la loi, à vous le droit, à vous la justice. S'il est vrai que ce fils qui blâme son père est le mien comme je suis le vôtre, man de mes ancêtres, mes deux bras croisés en arrière, je vous implore de briser le sacrilège. C'est en ces termes que justement Athème fait appel justement aux esprits pour certainement faire fléchir à son fils Amatigé. Et partant, nous savons que c'est pratiquement un sort, un mauvais sort qui a été jeté, on peut dire ainsi. Alors, le résultat est connu parce que vous l'avez dit, il va devenir fou. Par la suite, il va mourir de cette folie parce qu'il il était devenu incurable. Alors, mais finalement, on n'a pas senti, en tout cas, hein, une once de regret, en tout cas, dans cette mort. En tout cas, pas de regret pour Ambatigé, pour Athème, parce que son fils l'avait désobéi. Et surtout que lui, en tant que fin traditionnaliste, un vrai conservateur, tient à deux choses, à savoir, vous l'avez dit aussi, l'honneur et la dignité. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a gagné, lui, Athème, n'ayant pas autre enfant que Ambatigé? Finalement, qu'est-ce qu'il espérait de ce acte?
Merci. Je disais tantôt que la noblesse pure et dure est l'orgueil du Hogan, sinon du Dogon. Et Athème, après la mort de son fils, il n'a pas eu de regret. Et c'était pour montrer que lui, qui est le premier défenseur de la tradition, dans sa propre famille, si c'est son fils qui se lève pour le défier, le devoir voudrait qu'il punisse ce dernier pour servir d'exemple à d'autres personnes. Et c'est pourquoi il ne sait pas s'apitoyer de la mort de son fils. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qu'il gagne dans ça, pour être précis, pour vous répondre, Athème reste avec son honneur. Il reste avec son honneur, il reste fidèle à la tradition, il reste fidèle à ses ancêtres.
Alors, il reste fidèle à son honneur, à ses ancêtres. Heureusement que, en tout cas, dans cette salle, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est très bien déjà, parce que moi, j'aurais vraiment la question, certainement, que les femmes ici vont réfléchir là-dessus, c'est sûr et certain. Et une femme avec son mari n'ayant qu'un seul homme, n'ayant qu'un seul enfant qui est son héritier, et c'est votre époux pratiquement qui le donne à la mort, quelle va être votre réaction? Certainement que les femmes qui sont là peut-être peuvent réfléchir et justement nous donner des éléments de réponse par rapport à ça. Alors j'aimerais revenir un peu encore sur l'attitude justement de Oumoum qui était la femme de Amatigé, qui est une fille venue du village, très belle aussi, vous l'avez décrit avec en tout cas les secrets dont vous avez vous-même le seul secret, hein, en tout cas des termes que vous avez vous-même le seul secret. Alors, le mariage entre Oumou et Ambatigé n'a jamais été consommé, parce que tout simplement, Ambatigé ne voulait pas de ce mariage, il ne voulait pas de cette fille, parce qu'il voulait coûte que coûte se marier avec justement cet Akuyati qui était issu, vous l'avez dit, d'une famille très riche, hein, et justement parce que pour lui, dans un monde d'aujourd'hui, la sincérité, l'honnêteté et la noblesse n'ont aucune valeur. Tout ce qui compte, c'est le profit. Il faut juste, en tout cas, faire tout. Tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. C'est un peu ça. C'était ça un peu l'attitude de Ambatigé. Et finalement, c'est là où il va justement périr. Justement, parlant de Oumou, une fille villageoise qui est avec son mari, qui la repousse chaque nuit. La fille est là pour, en tout cas, son devoir conjugal, mais le mari boude. En tout cas, sur son lit conjugal. Mais on n'a jamais daigné raconter ça à qui que ce soit. Et sa belle-mère, en temps normal, en tout cas, devrait savoir, en tout cas, que la fille avait des problèmes. Parce qu'une maman, quand même, doit savoir les problèmes de sa belle-fille, même si sa belle-fille doit savoir. Et surtout que la fille maigrissait, hein, dépérissait de jour en jour, elle ne mangeait pratiquement pas. Mais cette attitude de Oumou qui m'a beaucoup aussi plu, elle n'a jamais raconté ça à qui que ce soit. Ça aurait été les filles qui sont avec nous ici dans cette salle, les filles de Bamako. L'homme, le mariage est célébré en grande pompe. La nuit, il ne s'est passé rien. Mais le lendemain, tout le monde saura que le mari n'a rien fait. N'est-ce pas, les filles de Bamako?
C'est bien ça.
N'est-ce pas?
C'est
mais cette attitude de cette fille du village, est-ce que c'est propre seulement aux filles du village ou encore des filles? Parce que c'est vous qui l'avez dit dans le livre, hein? Moi je ne fais que raconter ce qu'il a dit. Voilà, donc est-ce qu'il y a-t-il des filles aussi à Bamako qui peuvent avoir en tout cas le même comportement que moi, à savoir garder les secrets jusqu'à un certain niveau?
Je pense qu'en ville, on peut en avoir. Tout dépend de l'éducation. Vous l'avez vu, Oumou, elle n'a pas été instruite, mais en famille, la notion de mariage, elle avait une vision de mariage héritée du village. Et là, c'est c'est toute une éducation qu'on te donne. Et cette vision de mariage est basée sur toute une sagesse qui est là. D'abord, le mariage n'est pas entre l'époux et son épouse, non. C'est entre la famille de l'époux et la famille de l'épouse. Premier point. Ensuite, c'est entre l'époux et l'épouse. Alors, s'il y a un problème, on te dit s'il y a un problème, il faut patienter. La patience est un chemin d'or. Tu patientes. Il ne faut jamais divulguer les secrets de ton mari qui puissent porter atteinte à l'honneur, non seulement du mari, mais aussi et surtout à l'honneur de sa famille, mais aussi et surtout mieux à l'honneur de ta propre famille. C'est toute une chaîne qui est là. Dès que tu divulgues un secret, et même si ce secret est vrai, est juste, même si c'est à ton profit, tu risques d'altérer l'image de toute cette famille-là. Et là, on te demande de patienter. Et qu'un jour ou un autre, l'homme va prendre conscience et il va changer. Et on a beaucoup d'exemples ici à Bamako. Je connais beaucoup de personnes ici à Bamako, pour répondre à votre question, mais issus de l'éducation du village qui en ont fait de telles pratiques.
En tout cas, une chose est sûre, généralement à Bamako ici, le mariage est célébré le dimanche. Le matin, bonne heure, la gens s'impatientent justement pour savoir un tel, est-ce qu'elle a été retrouvée dans la brousse, a été retrouvée dans la forêt, on ne sait pas, c'est le terme qu'on utilise souvent. En tout cas, pour... voilà. Et justement, parlant toujours de... Alors, de cette histoire, hein, justement, j'aimerais qu'on revienne un peu parlant du mariage de Oumou et Amatigué. Ils étaient mariés officiellement devant Dieu et les hommes. Sauf qu'après le décès d'Amatigué, nous n'avons pas vu de veuvage. Est-ce que chez les Dogon, ça n'existe pas?
Si, il y avait le veuvage.
Ça n'a pas été mentionné dans le livre.
Ça n'a pas été développé. C'est ce même jour que Oumou et Aïchata se sont rencontrés où? L'ami de Amatigué, Félix,
oui,
a mené la médiation. C'était le même jour du décès, le lendemain du décès. Ils ont fait le veuvage, mais ça n'a pas été très développé. Sinon, le veuvage existe bel et bien chez les Dogons.
Est-ce que c'est le même veuvage que nous connaissons quotidiennement, qui fait quasiment 4 mois, 10 jours, c'est ça le veuvage, je pense. Est-ce que c'est les mêmes pratiques?
Au village, ça dépend des localités, des ethnies.
Ok.
Je veux dire, nous sommes du côté de Douanza, et ceux qui sont du côté de la falaise, ça dépend. Chez nous, par exemple, exactement, comme vous venez de le dire, ça compte des mois. Okay. La femme est enfermée dans la maison, elle ne sort pas. Il faudrait qu'elle attende le délai requis pour qu'elle commence à sortir.
D'accord.
Et voilà, et même si elle doit se marier, c'est à partir de cet instant. Que s'il y a la Lévira, bien sûr, si Amatigué, par exemple, avait un frère, il pouvait prétendre reprendre Oumou.
Oui.
Voilà, c'est légalement normal. Mais du moment qu'il n'avait pas de frère, vous l'avez vu, son oncle est venu du village pour le ramener, mais il pouvait plus revivre au village parce qu'il avait cette honte également. D'abord, elle se prétendait être la femme d'un fonctionnaire qu'il a rejeté, et vivre dans ce tourment, supporter tout ce malheur et aller revivre au village. Elle a refusé, elle a choisi de rester à Bamako.
Ok, elle a décidé de rester à Bamako, hein, en tout cas pour faire face en tout cas à d'autres réalités citadines. Le mauvais sort, comme on l'a si bien dit, qui a été jeté à Amatigué, disons par son papa, on va le dire ainsi, parce que c'est lui qui a fait appel au mal de ses ancêtres, en tout cas pour laver cet affront-là, parce que c'était un déshonneur pour lui que son fils lui ait désobéi. Mais justement, ce mauvais sort pouvait aussi venir de Karamoro Sidi. Hein? Karamoro Sidi, parce que en fait, quand Amatigué était en train de démarcher un peu Aïchata, Aïchata n'était pas du tout consentante au début, donc il a fallu faire recours en tout cas au service du vieux marabout. Et vous dites que le marabout consulte le sable. Depuis quand le marabout consulte le sable?
Ça, c'est un secret des marabouts, ils le connaissent eux-mêmes.
Ah bon?
Ils sont marabouts pendant la journée, mais pendant la nuit, ils sont autre chose. Les marabouts consultent les sables.
Très bien. Alors, les marabouts, ayant consulté le sable, va donner des portions de choses à Matigui pour faire, en tout cas, quelque chose qui a été travaillé avec du miel, hein, avec lequel il s'imbibait dedans pour rendre visite à Issata. Et finalement, la chose va prendre forme. Alors, mais il va le mettre en garde parce qu'il avait demandé 300 000 francs comme frais. Et Ambatigué n'avait que 100 000 francs comme avance. Et il avait dit, s'il ne s'exécutait pas, autrement dit, s'il ne donnait pas les 200 autres 1000, il peut s'attendre aux conséquences. Est-ce que ce mauvais sort aussi pouvait venir de Sidi Karamoro Sidi?
Oui, effectivement. Ce mauvais sort est partagé entre, non seulement par Atem, mais aussi par Sidi. Tout ça pour montrer que le comportement de Ambatigué n'est pas décent vis-à-vis de son père, mais aussi vis-à-vis de ce marabout, Sidi qui l'a aidé pour conquérir le cœur de Aïchata. Bien évidemment, au début, Aïchata avait refusé, c'est vrai, Aïchata l'aimait. Mais elle avait tenté de résister. Et pour vraiment avoir gain de cause, Ambatigué a fait appel à Sidi. Et donc, c'est pour vous dire que Ambatigué, c'est vrai, il est le protagoniste principal, mais il avait certains comportements qui ne correspondaient pas. Évidemment, sa mort peut également venir de cette potion que Sidi a prescrite à sa femme. C'est également un message pour dire à nos jeunes sœurs qui vraiment font le rang au niveau des marabouts de faire attention aux différentes potions qu'on leur donne pour qu'ils viennent mettre dans la femme, pour qu'ils viennent envoûter leur mari. C'est très important.
C'est un secret hein, qu'il vous donne parce que c'est aussi quelqu'un qui est initié à ces choses-là. Et je l'ai su à travers le livre. Apparemment, vous savez consulter aussi les sables. Vous faites même souvent hein, des choses à travers les champs que vous avez dû énumérer dans le bouquin. Alors, pour aller vite, M. Ongoïba, car nous sommes sérieusement pris par le temps et le livre est très intéressant, il faut le rappeler. En dernier, quand Ambatigué, pour abréger, va se lancer à la recherche de ses origines, il va entreprendre un voyage sur, en tout cas, le village. Au cours de ce voyage-là, il va être confronté à un autre problème. Voilà, et je vais parler de la mare, la mare des nomos chez vous. Alors, moi, c'est la première fois, mon cher ami Ongoïba, que j'apprenne qu'un homme s'est battu avec un nomo. Bon, nomo, certains diront mon nom, hein, qui est l'être surnaturel là dans l'eau qui attrape les gens. Et une fois que tu es pris, c'est ma première fois. Moi, j'ai vécu dans un milieu où, effectivement, chaque fois, on entend dire qu'un tel se fait, n'est-ce pas, appréhender par le mono chez nous. Ah, voilà, en tout cas, à Bafoulamé, pour être précis, on parle de mono, mais chez vous, on parle de nomo. Bon, les appellations diffèrent, mais elles sont quand même très proches. On peut même dire que ce sont des paronymes. Mais c'est ma toute première fois d'entendre parler qu'un homme, aussi puissant soit-il, s'est battu, en tout cas avec un être surnaturel dans l'eau et qu'il a pu échapper. Comment cela se fait-il?
Alors, comme je l'ai dit dans le livre, le nomo, pour simplifier, c'est le génie de l'eau. Bien comme on le dit, je pense, Mami Wata ou quoi? C'est bien ça?
On appelle ça Dilama, je ne sais pas. D'autres l'appellent Dilama aussi.
Ok. Alors, ce nomo ne prennent que les étrangers. Dans la mare, ce nomo ne peut prendre que les étrangers. D'abord, Ambatigué n'était pas un étranger, mais le nomo ne savait pas ça. Un. Deux, le nomo, il y a des hommes de caste que le nomo ne peut pas prendre. Et Ambatigué avait également ce sang. Non seulement il n'était pas un étranger, et il avait le sang de caste qui coulait dans ses veines. Mais pour le nomo, c'était un étranger parce qu'il n'est pas né au village. C'est un étranger qui est venu de Bamako, qui voulait traverser le village. Et du coup, vous avez vu, il l'a attiré bien avant qu'il n'arrive au niveau de la mare. Il l'a attiré à travers les sésames pour le conduire au niveau de la mare et il voulait prendre sa vie. Mais sa malchance était que Ambatigué n'était pas un étranger. Il avait également un gris-gris que son grand-père l'avait donné. Donc Ambatigué était blindé, si pour simplifier, il était blindé en fait.
Comme vous, hein?
Non, moi, je suis pas assez blindé.
Ça se voit. Ok, alors très intéressant cette discussion, mais mesdames et messieurs, nous sommes sérieusement pris par le temps, comme je disais tantôt. Voilà ce qu'il fallait justement, Oumar, hein, Ongoïba, retenir de cette première partie de votre émission, Le Train littéraire. Nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Il y a des passagers hein, qui sont avec nous. C'est donc l'occasion de vous donner la parole, mesdames et messieurs, afin que vous fassiez des contributions si vous en avez, posez d'éventuelles questions et auxquelles notre cher invité, M. Oumar Malik Ongoïba se fera le plaisir de répondre. Merci d'applaudir encore une fois pour notre cher invité. Voilà, le micro pour ceux qui veulent intervenir, soyez un peu plus bref.
Bonsoir à tous. Merci M. Traoré pour le micro. Toutes mes félicitations, mon cher, pour le livre et vraiment pour la quintessence de votre exposé également. Maintenant, moi, je n'ai pas de questions à poser, mais juste des contributions. Vu un peu le contexte, je me rappelle, vous m'avez parlé de ça depuis que nous étions à l'INSIP. Quand même, c'est un livre que je mets dans le cadre d'une recherche sociologique et parfois aussi anthropologique, parce que vu la narratologie que vous êtes là en train de faire, ça fait référence un peu. Hein? Vous êtes trop calé à votre culture qui est la culture de Wong. Je m'en réjouis vraiment. Et bonne continuation. Mais concernant au niveau du thème de la patience, vous avez parlé de la maman de Amatégué qui est le nom m'échappe. Yemi, voilà, qui est synonyme de la patience. Dans toutes les traditions maliennes, surtout africaines, on parle de la patience, surtout la patience chez les femmes. Et moi, je crois que dans le foyer, l'homme aussi doit avoir également, comme on appelle, cette notion de patience. Tout ne va pas se figer uniquement à la femme. Quand on prend sur les pulls, on dit Modjal, la patience. Les Bambara, Imunyu qui savali. Et l'homme alors, l'homme aussi doit avoir la patience. Surtout cette notion de patience que j'aimerais que vous nous détaillez un peu chez vous, chez les Dogon. Et ensuite, vous avez dit que le papa de Amatigué, qui est trop attaché à sa culture, à ses origines, mais il a des remords. Perdre un seul, le fils unique, hein, perdre ça au profit de la tradition et ce regret. Êtes-vous réellement ce messie? Ma question est là, c'est une moi. Voilà ce que j'avais à dire. Merci.
Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Awatou Mayon. Alors, je voudrais vous poser une question. Ce roman, est-ce que c'est tiré d'une réalité ou c'est juste une fiction? Et peut-être aussi une deuxième question. Pourquoi cette fin tragédie pour Amatigué? Et quelle est la fin aussi d'Atigué? C'est curieux. Si c'est dans le roman ou si c'est dans une autre partie à suivre. Je vous remercie.
Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Amaïbé Moïse Dolo. Je suis Dogon, comme vous. Je suis un défenseur de la culture Dogon. Votre roman, vraiment, c'est bien fait. Et ça développe l'éducation Dogon. J'ai une question concernant le roman. La deuxième, une autre question qui ne concerne pas le roman, mais la culture Dogon. Comme vous aussi, vous êtes un défenseur de la culture Dogon. Et la question qui concerne le roman, est-ce que la femme de Amatégué, Oumu, après le décès d'Amatégué, vous avez bien dit qu'elle n'a pas eu de mari encore dans la famille. Mais moi, je pense que dans la famille, c'est-à-dire dans la famille, famille lointaine ou famille proche, quel qu'en soit, il devrait y avoir quelqu'un qui devrait prendre la fille. Parce que tellement que la femme Oumu, elle a tellement patienté pour Amatégué. Voilà pourquoi elle n'a pas eu de mari dans l'entourage familial. Deuxième question, qu'est-ce que vous, en tant que défenseur de la culture Dogon, qu'est-ce que vous pouvez faire concernant les prénoms Dogon? Parce qu'on a tendance à voir que la disparition des prénoms Dogon. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vraiment remonter cette atmosphère sociale, culturelle Dogon? Voilà, merci.
Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Jafar Guindo, collègue de Mar. Merci vraiment pour ce livre et votre émission du haut niveau. Ma question est la suivante. Chez vous, les Dogons, vous avez dit le mariage entre nobles et hommes de caste est interdit. Moi, j'aimerais savoir, concernant ce mariage, cette union-là, est-ce qu'il y a des conséquences physiques après le mariage ou bien c'est qu'une question d'idée ou bien c'est psychologique ou bien j'aimerais savoir vraiment la conséquence ou de quoi la source de l'interdiction et la conséquence. Merci.
Bonsoir. Et merci, cher confrère Ngoïba. Tout d'abord,
en recommandation, on attend un deuxième volume, sinon une trilogie même, parce qu'on voudrait bien savoir qu'est-ce que Atiké va bien faire. Maintenant, une question, sinon deux questions. Qui l'emporte finalement? Est-ce l'insolent Amatigué qui l'emporte ou bien c'est son père, défenseur des traditions, qui l'emporte? Le jeune, il est mort, certes, mais il a laissé un enfant. Le papa voudrait quand même que sa lignée disparaisse si son fils n'accepte pas un mariage endogamique. Et ensuite, vous avez évoqué un autre point. Il y a eu une médiation des Bozo. Comment est-ce que le père a pu refuser la médiation d'un Bozo?
Ok, bonsoir. Mon nom c'est Moussa Madi Kamisogo. Et merci les deux Omar et Omar Angoiba. Et bravo encore Omar Angoiba pour la qualité et puis le livre, ça a été bien détaillé. Je ne sais pas si on a autre envie pour le livre tellement détaillé. J'ai deux questions. La première question, êtes-vous pour ou contre le mariage entre un noble et un griot? Mariage entre noble et griot, êtes-vous ou contre? Deuxième question, et comment qualifiez-vous l'attitude de Amatigué? C'était réellement l'amour ou désobéissance à son père, car son père n'était pas d'accord pour le mariage et puis le papa de la fille aussi n'était pas d'accord. Okay, merci.
Voilà, merci infiniment à toutes ces personnes qui ont bien voulu faire des contributions, poser des questions aussi. Merci à Ibrahim Guindo qui nous facilite en tout cas dans cette aventure. Alors, Moumar Ngouiba, nous sommes sérieusement pris par le temps. Hein. Malheureusement, vous n'aurez pas assez de temps pour répondre à toutes les questions, car il vous reste à peu près 5 minutes.
Vous me rappelez
d'abord... Alors, les questions, moi, je n'ai pas pris, je n'ai pas eu le flair de prendre les questions.
Il a parlé de la patience. Il a parlé de la patience en milieu d'Ogon. Oui, je disais que la patience, comme on le dit partout, c'est le chemin d'or. Chez les Dogons, pour vraiment bâtir son foyer, c'est d'abord la femme. C'est la femme qui fait le foyer, c'est la femme qui fait la famille. C'est elle qui doit accepter de se mettre au même niveau pour, comme les ordures. Voilà, il faut qu'elle accepte tout, tout ce qui vient non seulement du mari, mais aussi des parents du mari. Donc, c'est pour vous dire que cette notion de patience est tellement ancrée dans la culture Dogon au point que ça crée souvent de victimes. Mais on dit que tu auras les bénéfices après. Ça, c'est pour répondre à votre première question. Vous avez demandé si c'est moi Atiké ou bien si c'est moi Atem. Je n'ai pas bien saisi la question. Le père, non, je ne suis pas Atem. Seulement, Atem, pour rejoindre la deuxième question de la bonne dame qui me demandait si c'est, l'histoire est inspirée d'une histoire réelle ou si c'est vraiment de l'imagination. Pour le cas de Atem, je me suis inspiré d'un vieux qui vraiment partage toutes les mêmes caractéristiques de Atem. Donc, je ne suis pas Atem, mais je pense que ce vieux-là, il existe. Il y avait une autre question par rapport à la mort d'Amatigué. C'était de savoir si le père qui n'avait que ce seul garçon qui, après sa malédiction, a perdu la vie, pourquoi ce père n'a toujours pas de regret. Je disais tantôt que la noblesse pure et dure est l'orgueil du Ogon ou sinon du Dogon. Pour ce père, perdre un fils, certes c'est douloureux, mais la tradition... Les valeurs ancestrales sont au-dessus de cette vie. Laquelle des vies il s'agit? Cette ville vit, il l'a dit. Amatigué est en train de poursuivre une ville ambition. Ce mariage interclasse que Amatigué est en train de nourrir, pour lui, c'était une ville ambition. Et donc, avec sa mort, vraiment, le père n'avait pas de remords. Il garde son honneur. Alors, il y a d'autres questions pour les prénoms. Vous savez, les prénoms, c'est surtout les nouveaux marabouts qui disent non. Quand tu baptises ton enfant un Atem, un Amatigé, ce sont des noms des kafres. Et du coup, les gens se méfient. On tire les noms dans le Coran. On ne sait pas ce que c'est. On baptise nos enfants. Moi, je pense que pour sauvegarder cette culture, il faut passer par la sensibilisation. Alors, autre question, est-ce que le mariage interclasse, est-ce qu'il y a des conséquences? Des conséquences, vous l'avez vu déjà avec Amatigé, conséquences pour la sauvegarde de l'identité culturelle, Atem a décidé de maudire son fils, et conséquences physiques, et même aujourd'hui, si vous voulez, et même demain dans certains milieux, s'il arrive de cas comme ça, et les enfants sont toujours déclassés. Ça ne se voit pas en grande ville, mais dans les milieux ruraux, ça se voit. Est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage interclasse? Moi, je n'ai pas de position par rapport à ça. Mais je relate juste une histoire qui est très proche de la réalité que nous vivons. Et qu'est-ce que nous devrons faire vraiment pour sensibiliser ou pour... c'est comme si la condition humaine est malade. Qu'est-ce qu'il faut faire pour repenser le vivre ensemble? Alors, pour terminer, deux mots.
Ah, j'oublie. Voilà, donc, justement, le bozo qui est venu intervenir, sinon, en tout cas, qui faisait partie de la délégation, hein, pourquoi un Dogon refuse à un bozo? C'est sacré, quand même.
Hein. Atem avait catégoriquement refusé de recevoir Atigé dans sa famille. C'est avec l'intervention du bozo qu'il a accepté quand même que l'enfant vienne visiter la famille. Et c'est avec cette intervention qui a permis que Atem délègue un autre homme de caste pour faire les démarches du mariage avec Zainabou. Donc c'est pour vous dire qu'il n'a pas accepté, il n'a pas rejeté cette démarche que les bozos ont menée.
Ok, donc je pense que nous avons sérieusement pris du temps. Omar Ngoïba, il y a tellement de choses à raconter en tout cas sur cet ouvrage-là, mais je pense que les discussions pourront se poursuivre dans les coulisses ou dans d'autres endroits, j'en suis sûr. Nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Votre mot de la fin, Omar Ngoïba.
Oui, mon mot de fin, je veux juste souligner deux points qui me tiennent beaucoup à cœur par rapport à cette œuvre. C'est d'abord la dimension philosophique. Beaucoup de lecteurs sont choqués par le fait que le héros meurt dans le roman. Est-ce que vous voyez? Et beaucoup accusent surtout Atem d'être la mort, ou Sidi d'être responsable de la mort de Amatigé. Je voudrais préciser ici que Amatigé a décidé de son propre chef. Et s'il faut partir sur la base de cette notion philosophique de Jean-Paul Sartre sur la question de l'existentialisme, on ne peut pas accuser ni Atem ou ni Sidi d'être responsable de la mort de Amatigé. Amatigé l'a bien voulu. Il a choisi d'être libre. Donc la notion du libre arbitre et de la responsabilité individuelle. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le premier point que je voudrais souligner. Le deuxième point, c'est la dimension socio-économique. La dimension socio-économique dans cette œuvre. Nous avons vu la classification sociale guidée par la noblesse, les valeurs morales, qui est bouleversée ou qui est en passe d'être bouleversée par une autre classification sociale guidée par l'économie. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre les deux? Aujourd'hui, on parle d'inégalité entre les classes sociales. Mais demain, on parlera sans doute d'inégalité économique, parce que c'est cette inégalité économique qui a poussé Amatigé à aller vers la fille griotte là. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre les deux? En tout cas, c'est un débat qui est là. Voilà. Pour rebondir, une question m'est revenue en tête. Quelqu'un m'avait demandé à savoir l'origine, je pense, l'origine de cette classification sociale. Je pense que la classification sociale, c'est depuis l'Empire du Ghana en passant par l'Empire du Mandingue. On a vu le serment de Sacher, on a vu le serment du Mandingue, où on parle évidemment de la classification des classes sociales. Mais cela ne veut pas dire qu'une classe sociale est meilleure qu'une autre. Non, elles sont complémentaires. Chaque individu a décidé de mener une activité bien déterminée. Voilà, c'est partant de cette base qu'il y a eu cette classification sociale. Aujourd'hui, si ça pose problème, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment résoudre ces problèmes-là? Voilà le grand point d'interrogation qu'on se pose.
Mot de la fin, mot de remerciement.
Mot de remerciement, je remercie ce Sarma public. Je vois M. Kanfo, enseignant à l'université. Merci. Je vous salue tous. Je suis vraiment très, très content. À bord de ce train littéraire, c'est une aventure collective, un voyage littéraire. J'espère qu'on aura le temps d'aborder encore un peu plus profond les différentes thématiques qu'on n'a pas eu la chance vraiment de développer ici parce qu'on est un peu pris par le temps. Je vous remercie également. Je remercie les techniciens. Alors, merci beaucoup.
Merci à vous aussi, hein, Omar Ngoïba. C'est donc tout hein, pour ce train littéraire. Merci, mesdames et messieurs, d'être sortis. Et nous vous demandons d'acclamer encore une dernière fois pour notre cher auteur, Omar Malik Ngoïba. Ça a été un plaisir hein, de vous présenter ce énième numéro de votre émission, Le Train littéraire. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, toujours au restaurant La Pirogue pour d'autres aventures. À très vite sur Dieu de Bâtir News. Au revoir. Le cocktail, c'est à l'heure. Samba.
Merci.